Linda Etienne.
C'est quand même incroyable.
Benoît Dutrisac.
Moi, je suis plus capable.
La rencontre.
C'est quand même important d'en parler.
Nous, j'en ai assez de ça.
Oui, vous pouvez penser ce que vous voulez.
C'est troublant, là. C'est écœurant.
Bon, OK, j'exagère un peu.
La rencontre. Etienne Dutrisac.
Au Varda.
Salut Benoît.
Bonjour. Hier, on déposait l'espèce de bilan là, de la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse, pour 2020-2021. Puis ça ressemblait pas mal à, tu sais, la deuxième année de pandémie. Là. Ça va pas bien nécessairement.
Malheureusement, je suis obligée de te dire que tu as raison, Benoît. La DPJ rapporte qu'il y a une baisse de signalement, mais il y a aussi une forte augmentation du nombre d'enfants qui sont sur des listes d'attente. Et selon Mme Gallo, qui est la directrice de la DPJ, c'est causé par le manque de pénurie et de main d'œuvre, et que là, ils mettent beaucoup d'efforts pour essayer de recruter du personnel. C'est pas facile, mais Benoît, il faut savoir que, bon, j'ai encore une fois parlé d'un exemple que je vis dans ma vie. Ma mère est famille d'accueil depuis 35 ans. Et bon, ma mère est une dame d'un certain âge maintenant, donc ceux qui sont chez elle présentement, bon, il y en a un qui est presque à l'âge de la majorité. Mais ce qui est difficile, Benoît, c'est trouver des familles d'accueil qui sont compétentes pour aider les enfants qui ont un besoin de quitter le nid familial, parce que 75% des cas de ces jeunes-là sont des enfants qui sont soit exposés à de la violence conjugale, malnutrition, mauvais traitements et autres. Mais ces gens, ces familles qui acceptent d'accueillir chez elles des enfants sont souvent en manque de ressources elles-mêmes. Là, je t'ai fait part du manque de personnel. Les intervenants, Benoît, on ne se le cachera pas, ils sont à bout, avec raison d'ailleurs. Il y a trop de dossiers à gérer. Et en plus, comme je te dis, il y a moins de familles d'accueil qui, elles, proposent leur aide pour devenir famille d'accueil. Ils vont accueillir des enfants chez elles. Mais pour revenir à ce que je te disais, ma mère me donnait par exemple, elle a eu des cas d'enfants qui souffraient de traumatismes sévères, de troubles de comportement sévères. Donc, naturellement, elle demande au travailleur, à la travailleuse sociale de lui venir en aide et qui lui dit, écoutez, Madame Alphonse, c'est pas compliqué. Même pour faire voir un psychologue ou un psychiatre, c'est une liste d'attente un an et demi. Donc, quand tu as cette information-là, est-ce que tu as le goût de te dire, bon, moi, je vais m'embarquer dans cette aventure-là? C'est pas facile. Et comment maintenant trouver des moyens pour convaincre des gens, des jeunes, de dire, écoutez, ça serait le fun que ce soit un métier qui vous intéresse pour venir en aide aux jeunes, pour vous impliquer, tout ça. Mais est-ce que c'est une question salariale? Sûrement. Mais il faut aussi prendre en considération le bien-être mental de ces intervenants-là qui doivent faire leur travail comme il se doit.
Ah, puis c'est exigeant, puis c'est des horaires
exigeant, tu
pas
dis?
Facile, puis souvent, pis moi je l'ai connu, là, souvent les intervenantes qui ont étudié souvent en criminologie se cognent à des familles qui sont, tu sais, familles d'enfants qui ont peut-être, tu sais, fait des mauvais coups. Qui s'en fichent, là, tu sais, on leur donne des travaux communautaires à faire, ils se présentent pas, ils le font pas, il y a pas de conséquences, c'est pas grave. Puis le fait qu'il y ait moins de signalement, si tu lis le rapport, hier je l'avais entre les mains, c'est que tu constates que principalement les signalements sont faits par les policiers, par les organismes communautaires et par l'école. Fait que là, si les écoles sont fermées, ben c'est sûr que tu as moins de signalement, puis il y a des cas qui passent sous le radar.
Ben voilà, alors justement, alors lorsque c'était en début de pandémie, pendant la période de confinement, il y avait eu effectivement une légère baisse. Mais dès qu'il y a eu la rentrée des classes, je veux dire, les signalements ont augmenté. Mais maintenant, lorsque tu reçois un signalement, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on se rend soit à l'école de l'enfant ou à sa résidence, on rencontre les parents. Lorsqu'on voit qu'il y a vraiment une nécessité ou il y a urgence de déplacer cet enfant-là ou ces enfants-là de leur milieu familial, on les envoie où? Là, il y a des familles d'accueil, ce qu'on appelle des familles d'accueil d'urgence. Peu importe l'heure du jour et de la nuit, cet enfant-là est récupéré et est amené chez la famille d'accueil qui décide de l'accueillir pour court. En général, c'est court ou moyen terme. Parfait. 24, 48 heures, 2 semaines, 1 mois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que, Benoît, il y a non seulement le fait que tu déplaces cet enfant-là, et parfois c'est vraiment nécessaire et tu rends service à l'enfant, mais est-ce qu'on a pensé aussi que ces enfants-là doivent changer d'école, s'adapter à un nouveau milieu scolaire, une nouvelle famille? Tu sais, ça, là, Quand et, t'as ça, 5, et ça, 6,
c'est
7 quand, ans,
ça, c'est quand les parents biologiques font pas de trouble, qui essaient pas de récupérer l'enfant, et là, qui perturbent cet enfant-là, qui essaient de s'adapter à sa nouvelle famille.
Ben, écoute, moi, Benoît, je me souviens d'un cas, j'étais jeune, j'étais dans l'adolescence, peut-être 14-15 ans à l'époque. Ma mère était, mes parents étaient déjà famille d'accueil. Il y a deux enfants qui avaient été retirés, les parents avaient perdu la garde pour sévices sexuels. Le père de ces enfants-là a débarqué une nuit à la maison. Écoute, je m'en rappelle toute ma vie, là, Benoît. Écoute, il hurlait, il cognait. Donne-moi mes enfants, ma gang de tabarnak. Écoute, c'était l'horreur, là. Donc, ces enfants-là qui fuyaient des crimes sexuels, et là, ils avaient une peur, mais écoute, une peur morbide de ce père-là, doivent se réveiller en pleine nuit parce que cet homme-là qu'il fuit est maintenant venu les hanter dans la famille d'accueil où il se retrouve. Donc, puis il faut aller plus loin aussi, Benoît. Il faut penser à toutes les conséquences, toutes les séquelles que cela va laisser chez ces enfants-là plus tard. Et la preuve, encore une fois, on est bien grande, Benoît. Je veux dire, chez maman et chez papa, combien d'enfants sont passés? Je te dirais peut-être une trentaine. Il y en a parmi eux qui ont passé de très longs moments, des années chez mes parents. Et même après le divorce de mes parents, ma mère a continué à être famille d'accueil. Puis je te dis pas que ma mère est mieux que les autres, mais les enfants qui ont été placés en famille d'accueil chez mes parents ont fréquenté l'école privée, allé en voyage avec mes parents. Tu sais, il y avait pas comme... Oui, on encaisse le chèque, c'était puis pas, le chèque, on s'entend, Benoît, là.
C'était pas Harry Potter, là, où il couchait en dessous de l'escalier.
Mais tout ça pour te dire que malgré tout, Benoît, parmi ces enfants-là, la majorité... Malgré tout l'amour et l'attention que ma mère leur a donné, ben ça ne vire pas toujours très bien.
Ah oui.
Ça vire pas toujours très bien parce qu'il y en a aussi qui sont, après un certain nombre d'années, sont retournés, on les retourne chez les parents biologiques, qui, eux, essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais moi, il y a certaines questions que je me pose, Benoît, dont la suivante. Pourquoi, lorsqu'il y a un signalement qui est émis, on n'essaie pas de trouver refuge pour ces enfants-là chez des membres de la famille éloignée? Pas seulement les grands-parents. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Comme, je sais pas moi, des cousines. Tu sais, comme chez nous, dans la culture haïtienne, tout se fait dans la famille. Tu comprends? Je te dis pas qu'il n'y a pas d'enfants. Et Dieu sait qu'il y en a. Ma mère en a eu beaucoup sous son toit, des enfants d'origine haïtienne placés chez elle. Mais on a tendance, nous, à quand ça va pas bien, ben on demande l'aide d'une tante, d'une cousine, d'un parent. Tu sais, au moins, l'enfant reste dans la famille.
C'est peut-être un réflexe qu'on a moins, hein, au
ben
Québec.
Oui. Tu sais, parce que c'est déjà que l'enfant ou les enfants vivent un traumatisme de quitter le milieu familial. Imagine si tu te retrouves chez des étrangers que tu ne connais pas. Ouais. Bon, surtout des enfants issus de parents immigrants. Tu sais, t'as la culture qui est pas la même. Les enfants, moi, ma mère a eu des enfants d'origine haïtienne et des enfants d'origine québécoise. Mais c'était important pour les jeunes haïtiens. Ma mère continuer à leur parler créole, continuer à cuisiner la nourriture haïtienne pour qu'ils ne perdent pas de leur culture, comprends?
Ouais.
Et je trouve que c'est une façon pour les enfants d'être mieux épanouis et moins se sentir moins déracinés. Mais lorsque Mme Gallo, je la crois, là, mais tu sais qu'il y a un manque de personnel et tout ça, mais quels sont les critères d'embauche? Et est-ce que, justement, lorsqu'on a des nouveaux arrivants, peut-être les enligner de façon à ce que ce soit un métier qui puisse les intéresser? Tu sais, j'essaie de trouver des solutions. Là, j'ai pas la prétention d'avoir réponse, mais...
Ouais. Non, mais ça prend de la formation là pour agir puis interagir avec cette clientèle qui peut être difficile, là. soit peut-être pas criminalisée, mais délinquant, ou soit des victimes aussi d'actes de délinquants ou de crimes. C'est une clientèle qui est difficile avec un horaire difficile.
Oui.
Je suis pas sûr, moi. Tu sais, on est là puis on est assis dans les gradins. Moi, ta mère, j'admire ça là, son implication sociale. Tu sais, à aider les enfants qui sont poqués et sont mal pris.
C'est les aimer, Benoît, là.
Ouais.
Les aimer.
Oui, oui, oui. Tu sais, puis là, on demande à l'État de prendre en charge des enfants qui sont poqués par la vie. c'est pas simple. T'sais, on peut bien toujours les critiquer, puis on peut aussi dénoncer. T'sais, la petite fille qui est morte là à Granby. Il y a 2 ans. T'sais, là, on a constaté qu'il y a dans la direction de la DPJ en Estrie, il y en a qui étaient assis sur leurs mains, puis qui ont fermé les yeux sur des, t'sais, sur l'information. Il me semble qu'il aurait justifié une action.
Mais en même temps, Benoît, je sais, c'est pas ce que tu prétends, mais en même temps, il y a des gens, il y a des intervenants qui sont vraiment dévoués à la cause, qui veulent, ils veulent absolument aider ces enfants-là. Mais lorsque tu es une travailleuse sociale ou un travailleur social, que tu as 50 enfants à ta charge, il faut que tu trouves des solutions pour 50 enfants. Je veux dire, on peut comprendre que ces gens-là, soient dépassés par les événements.
On peut.
Mais écoute, tu sais, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que manque de personnel, pas capable de recruter, donc pas de personnel, je veux dire, tu peux pas les former. Il arrive quoi? Il arrive quoi? C'est bien beau que le gouvernement, le ministre Carman, le gouvernement a injecté 10 millions pour soutenir les familles d'accueil. OK, mais...
Puis en même temps, là, Varda, faut qu'on se quitte, là, mais en même temps, là, tu sais, il n'y a pas de fin à la misère, il n'y a pas de fin, parfois, à la haine,
voilà,
au comportement atroce de certains adultes envers des enfants, puis ça va, c'est la nature humaine dans son plus laid, puis malheureusement, ça continue à exister.
Et malheureusement, non, je vais pas finir ça sur une note négative, mais je doute surtout en ce moment, avec la pandémie que tout le monde connaît et vit, je pense pas que ça va aller en s'améliorant.
Ouais, malheureusement.
Parce que les parents ne vont pas bien.
Ouais. Bon, on se laisse là-dessus. Merci, Varda. Salut ta mère de ma part. Vraiment,
avec grand
plaisir. Avec un gros bisou, parce que vraiment, des gens qui s'investissent comme ça auprès des enfants, là, ça mérite d'être souligné.
C'est très apprécié. Merci, Benoît. À demain.
Merci, Varda.